Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour Mathilde.
Merci.
Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte.
Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire?
Que le haut potentiel?
Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée?
Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable.
C'est un biais culturel.
Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par...
Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous.
Donc c'est pas toujours clair pour les parents.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
Auteur, peintre, philosophe, poète, médecin. Un, on va ridiculiser les femmes qui le font. Et de deux, après, en entendant ça, les personnes vont se dire « bah c'est pas ma place, c'est des métiers réservés aux hommes ».
Dans la première partie de cet épisode de Parentalité, nous avons reçu Carole qui nous a parlé de ses réflexions autour du genre et du langage et de comment elle a cheminé pour dégenrer le langage auprès de ses enfants. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, je reviens avec Aline Laurent-Maillard sur plusieurs questions. Pourquoi est-il important d'être attentif au genre du langage que nous utilisons auprès des enfants? Quel est l'impact du genre dans le langage? Comment peut-on changer des habitudes parfois très ancrées dans un langage très genré de la langue française? Bonjour Aline.
Bonjour.
Tu es journaliste, autrice de deux livres, Libérée de la masculinité et Le genre expliqué à ceux et celles qui sont perdus.
Celles et ceux, mais presque.
Oh, je vais y arriver. Alors, deuxième livre, Le genre expliqué à celles et ceux qui sont perdus. Tu es également l'autrice de deux podcasts, Free From Desire, dans lequel tu parles d'asexualité et questionnes notre vision de l'intimité. Et puis un deuxième podcast, Bienvenue bébé, dans lequel là tu questionnes l'impact des normes de genre dans l'éducation des enfants. Et il y a d'ailleurs un épisode tout particulier sur la question du langage, qui est l'épisode numéro 5. Et ces deux podcasts sont produits par Paradiso Média. Tout d'abord, Aline, pourquoi selon toi il est important de dégenrer le langage dans l'éducation ?
Quand j'ai décidé de faire ce podcast, j'avais déjà plein d'intuitions et puis plein de choses que je savais, en fait, en tant que personne qui travaille sur ces sujets depuis longtemps. Et s'il y a une chose que j'ai vraiment appris et qui m'a surprise, c'est la place du genre, en fait, et le fait que plus on genre le langage, la société, plus les enfants, en fait, y prêtent attention. Et plus les enfants développent des stéréotypes et cherchent à rentrer dans une case. Et c'est pas quelque chose dont j'étais vraiment consciente avant. J'étais plutôt en train de me dire, bah voilà, faut faire le féminin et faut rajouter le féminin partout, faut mélanger les jeux, etc. Mais j'avais pas autant, j'avais cette intuition, mais pas à ce point-là, qu'il faut repenser, en fait, la façon dégenrée, la façon dont on présente le monde pour nos enfants, si on veut que nos enfants arrêtent, en fait, de prêter attention, enfin, arrêtent. Prête moins attention à tout le sexisme qui les entoure.
Oui, donc pour toi, le langage genré accentue le sexisme.
Tout à fait. Et c'est bien ce que dit, en fait, il y a un psychologue qui s'appelle Dan Zlobin. Pour lui, en fait, dans la question « est-ce que le langage influence la façon dont on parle ?», lui, il dit « le langage, en fait, c'est un vecteur attentionnel ». C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va attirer notre attention sur... quelque chose qui va être pertinent ou pas. Donc typiquement, si on dit les garçons et les filles, on va attirer sur le fait que ce sont deux groupes différents. Si on dit les enfants, l'attention elle va sur autre chose. Si on dit un petit carnet, on va prêter attention sur le fait qu'on a dit petit, que le carnet est petit. Donc à chaque fois qu'on parle, les mots qu'on utilise vont aiguiller notre attention.
Et donc, oui, aiguiller notre attention pour amener à une représentation.
Tout à fait.
En effet, quand on dit les enfants ou les filles et les garçons, on ne se représente pas la même chose.
Tout à fait. Et ça, ça a été prouvé par de nombreux chercheurs et chercheuses. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont lieu. Par exemple, il y a une enquête qui a été faite de Marcus Brouwer et Michael Landry qui montre que quand on utilise en fait du masculin, les gens vont... Donc ce qu'on appelle le masculin générique, le fait d'utiliser du masculin quand on ne sait pas le genre d'une personne ou quand on parle d'un groupe collectif, eh ben les gens vont plutôt s'imaginer des hommes. Donc c'est par exemple, on va dire, eux, ils avaient demandé à des participants et des participantes de nommer un artiste, un héros, un candidat au poste de Premier ministre ou un professionnel. Et donc là, on avait des noms plutôt masculins qui venaient. Alors que quand ils avaient changé l'énoncé et ils avaient dit une personne, artiste, enfin qu'ils avaient vraiment utilisé donc des termes épicènes, c'est-à-dire des termes qui sont les mêmes, le genre ne modifie pas le terme. Donc par exemple, un ou une architecte, c'est un terme épicène. En moyenne, lorsqu'un terme masculin était employé, 23% des nominations étaient féminines, contre 43% lorsqu'un terme épicène était utilisé.
Oui, donc ça doublait presque les termes féminins. En
exactement.
Tout cas,
on avait attiré leur attention avec le 1 qui nous semble, nous on nous a toujours dit que c'était neutre, bien évidemment ce n'est pas neutre. On avait attiré leur attention sur le fait que c'était du masculin et donc on avait un peu...
Orienté.
Voilà, exactement. Comment ça fonctionne? Parce qu'on pourrait se dire... On sait très bien pourquoi est-ce que quand on utilise le masculin générique, en fait, on a derrière des pensées plutôt masculines. Donc, dans mon podcast, j'ai interviewé un chercheur en psycholinguiste, donc l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le cerveau pense-t-il au masculin ?» Donc, on sait déjà direct ce sur quoi porte son travail, qui s'appelle Pascal Gijax. Et en fait, il explique quelque chose. Il explique qu'il y a un double deux choses qui se passent dans notre cerveau quand on entend du masculin générique. D'abord, un élément d'exposition, c'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau, il a besoin de travailler très, très rapidement. Il a des stimuli qui viennent tous les côtés, il faut réagir vite, il n'a pas de temps et il a envie de garder ses ressources pour des activités qui sont importantes. Et donc, il fonctionne un petit peu de façon automatique. Et donc, quand il entend du masculin, il va se dire directement, voilà, généralement, quand j'utilise du masculin, et donc du coup, ça c'est l'élément d'exposition, il est exposé massivement en fait au fait que masculin est égal un homme. Et puis, il y a aussi un effet d'apprentissage, c'est-à-dire que ce qu'on lui a appris en premier, c'était que masculin est égal homme. Et donc, cet élément d'apprentissage et d'exposition fait que le cerveau se dit, bon, bah, va à la solution la plus rapide, en fait. Ça doit être un homme. Alors, il peut comprendre quand même qu'il y a du générique, hein, bien sûr, que ça peut être un homme ou une femme. Mais ça nécessite un travail supplémentaire. Ça nécessite une réflexion en plus. Et c'est pour ça que c'est pas instinctivement la première chose qu'on fait.
En tout cas, là, dans ce que tu dis, Aline, moi, j'entends vraiment l'importance du langage sur la construction des représentations. Parce que nos représentations vont déterminer un certain nombre de choses dans notre vie. Et plus ces représentations vont être ouvertes, modulables, flexibles, plus ça amène de possibilités, finalement.
Bien sûr. Et c'est intéressant quand on parle avec des très jeunes enfants. Parfois, effectivement, ces enfants inventent des féminins. Et nous, on est là, genre, j'avais jamais pensé que c'était ça, le féminin de ce mot. Parce que pour ces enfants, en fait, c'est juste qu'ils ont été... assez protégés du sexisme et qui ont encore leur innocence, ces enfants ne se sont jamais dit « le féminin n'existe pas pour ce terme ». Et donc c'est très intéressant de voir ces enfants, en fait, naturellement, pour ces enfants, si tout est possible, et ben le féminin existe partout. À l'inverse, des enfants qui vont vivre dans des milieux très, très formatés, dans lesquels on utilise tout au masculin, de fait, vont se dire, bah, c'est l'exemple batteur-batteuse qu'on avait la semaine dernière, qui est très, que Carole nous donnait, qui est très intéressant. Effectivement, si on voit qu'il y a un terme qui n'existe que au masculin, on va se dire, est-ce que du coup, j'ai ma place, moi? Et donc, ça crée un sentiment de doute, une projection aussi. On se dit, bah, je ne vois que des hommes dans cette activité, et donc on ne s'imagine pas en tant que femme dedans.
Oui, ça peut limiter sur certaines activités qu'on aura envie de faire. D'ailleurs, Carole nous témoignait qu'elle avait envie de faire de la batterie et que le fait qu'on dise batteur avait pu la questionner et aurait pu limiter, lui interdire de faire de la batterie en tant que
fille. Et puis, ce que ça crée aussi, c'est une vision très binaire. C'est-à-dire qu'on est constamment en train de dire il y a un groupe de garçons, il y a un groupe de filles. Et dans la façon, parce que bien sûr, le langage n'est qu'une pièce du puzzle. Et donc, on a le langage, on a, alors pas en crèche, mais dès la maternelle, on a souvent des espaces géographiques qui sont différents, les toilettes qui sont séparées. Les enfants voient aussi dans la rue, en fait, que ce sont deux groupes qui sont habillés différemment, qui sont coiffés différemment. S'il y a une télé et qu'il y a des matchs de foot, on voit bien qu'il y a les garçons à l'écran et les filles sont ailleurs. Et donc, en fait, dans toute notre organisation de la société, on passe notre temps à nous séparer. Il suffit d'aller à la piscine. Les vestiaires sont séparés. Et donc, les enfants comprennent très rapidement par ces mille signes que garçons, filles, c'est très différent. Et le langage le rappelle constamment. Par exemple, le fait que, on va dire, ben, je reviens toujours à cet exemple, les garçons et les filles. Quel est l'intérêt de spécifier les garçons et les filles? Quand dire les enfants pourrait être plus rapide. Et ça, ça leur envoie aussi cette idée que, voilà, qu'il y a deux groupes qui sont très, très différents. Ils sont presque opposés puisqu'ils ne cohabitent jamais. Et donc ça enlève aussi la possibilité d'exister hors de ces normes. Au-delà de parler d'enfants qui seraient trans ou non-binaires, juste d'exister, en fait, au-delà du genre. Mais même s'il ne faut pas aussi oublier qu'il y a plein d'enfants, je suis la première, puisque je suis une personne non-binaire, enfin, je me définis comme non-binaire, et quand j'étais jeune, ça m'a causé beaucoup de chagrin, en fait, de devoir constamment choisir un groupe ou l'autre, et de sentir que je n'avais pas ma place avec le groupe des garçons, alors qu'il y avait tellement d'activités qui me semblaient sympathiques du côté des garçons, et que, de fait, c'était pas possible.
En tout cas, il y a quand même des choses qui bougent par rapport à l'exemple que tu prenais des vestiaires, des piscines. Quand même, dans une grande majorité des piscines, maintenant, les vestiaires sont mixtes.
Ah, j'adore. Ma piscine est comme ça. Alors, ma piscine, je déménage. Alors, je dois dire adieu à ma piscine. J'aurais connu ces vestiaires, je crois, 6 mois après la fin des travaux. Et je trouve ça absolument génial. En fait, on est tous mélangés près des casiers. Et puis après, si on veut se changer, il faut rentrer dans des cabines. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui se met à poil dans les vestiaires. Il y a des cabines. Et donc ça, les douches, pareil, c'est ensemble. Il y a des cabines qui sont privatives si on n'a pas envie d'être au regard de tout le monde. Et donc ça permet non seulement effectivement de dégenrer, mais je ne pense pas que c'est un objectif politique féministe de faire ça, mais c'est juste pratique, en fait, tout simplement. Ça permet aux familles d'être ensemble. Et c'est la même chose avec les toilettes. Alors ça, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la nécessité, l'utilité de séparer toilettes hommes et toilettes femmes. Ça crée des problèmes de propreté, parce que du coup, de violence aussi, parce que du coup, on se retrouve dans une homogamie, c'est-à-dire qu'il n'y a que les hommes ensemble et que les femmes ensemble. On se retrouve avec des gens à qui on a appris à être moins propre. Et donc du coup, les toilettes des mecs, bah, on sait, sont toujours dégueulasses. Voilà. Chez les filles, on va être sur un groupe à qui on a appris à être peut-être plus violente entre elles psychologiquement, quoi. Et donc là aussi, on se trouve avec des problèmes dans ce sens-là. Alors que si on mélange tout le monde, en fait, tout le monde se comporte mieux parce qu'on a plus de profils différents. Puis il y a les questions aussi de logistique, tout simplement. Hein. Je veux dire, on sait très bien qu'il y a la queue aux toilettes des femmes et jamais la queue aux toilettes des hommes parce qu'on a dit il faut le même espace. Pour une sorte de principe d'égalité, sauf qu'en fait, on n'a pas les mêmes systèmes physiques, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, du coup, les femmes vont plus aux toilettes. Et donc, on se trouve avec des queues, alors que si on réunit tous les toilettes ensemble, et bah, tout d'un coup, on a aussi ce problème qui disparaît.
Aline, pour revenir sur cette question de la langue et de la spécificité de la langue française et du genre...
On
ne
va pas parler de toilettes, tout ça.
Non, ce n'est pas l'objectif du podcast, en effet. Mais voilà, sur cette question de la langue française qui est, en tout cas, par exemple, en comparaison avec l'anglais, qui est beaucoup plus genré, d'où ça vient, ça?
Alors, la semaine dernière, je vous parlais de Eliane Viennot. Et je vais continuer de vous parler d'Eliane Viennot. Donc, Eliane Viennot, donc c'est une chercheuse en linguistique. Elle écrit beaucoup de livres. Et je vous les conseille vraiment fortement parce qu'ils ont plein d'angles différents. Et on apprend beaucoup de choses sur à la fois la langue et puis la culture française. Parce que finalement, les deux sont... On a dit, le langage est une construction sociale. Et donc, on apprend beaucoup sur la façon dont la France s'est créée. En fait, au Moyen-Âge, on avait une langue qui est méconnaissable par rapport à maintenant, ne serait-ce que par sa liberté. On avait vraiment une langue qui était très, très libre. Il y avait beaucoup moins de « il faut dire ça, il faut pas dire ça, t'as fait une faute, faut que je te corrige ». C'est une spécificité très française, ça, de corriger les gens dans leur façon de parler et de dire « voilà, il y a un bon langage et il y a un langage populaire ». Et qui dit populaire dit négatif. On a beaucoup de jugements sur la façon dont on parle en France. Et puis aussi, l'autre point intéressant de ce langage médiéval, c'est qu'il y avait... de la place pour le neutre. Et vous voyez, là, j'ai dit « il y avait de la place pour le neutre », donc j'ai encore une fois utilisé un terme « il », je pense que qui n'est pas justifié par du masculin, et je pense qu'au Moyen-Âge, on aurait fait une autre formulation, peut-être en utilisant des pronoms, en fait, neutres, qu'on a complètement oubliés. En français, on a toujours quelques pronoms neutres, on a par exemple ça. À l'époque, il y avait des pronoms qui n'existent plus, en fait. Donc il y avait beaucoup plus de neutres. On disait, par exemple, je crois « elle fait beau ». Plutôt que « il » ou « elle », il y avait ce pronom « elle », « e-l », qui permettait de décrire, en fait, du neutre. Et puis, il y avait beaucoup plus de termes féminins aussi. Tous les métiers, toutes les activités, si elles étaient pratiquées par des femmes, étaient au féminin. Donc, on aurait dit... alors, attendez, je me suis fait une petite, la petite liste dont m'avait parlé
Eliane Viennot. On aurait dit une doctoresse, par exemple.
Doctoresse, tout à fait. On avait dit aussi, où j'étais complètement... qui sont très rigolos. Par exemple, philosophesse, bon, ça, à la limite, on l'a un peu entendu. Je crois qu'on disait médecine, par exemple, ça nous semble bizarre, mais on disait médecine à l'époque. Si on est un médecin femme, médecine, c'est assez logique. Donc voilà, il y a plein de termes comme ça, et je suis sûre qu'on disait batteuse pour quelqu'un qui battait sur quelque chose. Après, on a une période, bien sûr, on a beaucoup moins d'archives sur l'évolution du langage par le passé. Donc, on sait qu'il y a eu une première phase de masculinisation au XIIIe siècle avec l'apparition des universitaires, qui sont des hommes chrétiens lettrés, qui changent progressivement la langue. Alors, on n'a pas de preuve que ce soit délibéré. En revanche, au XVIIe siècle, là, on a une nouvelle vague de masculinisation et on a énormément de preuves que c'était complètement délibéré. Ces universitaires voyaient d'un très mauvais œil la féminisation des milieux artistiques et culturels. On a une époque où l'imprimerie prend vraiment son envol. On a de plus en plus de femmes qui, du coup, ont l'opportunité, en fait, d'accéder à ces métiers qui étaient un peu chasse-gardés des hommes avant. Et ça, ils voient ça d'un très mauvais œil. Et donc, ils se disent, puisqu'on ne peut pas leur interdire l'accès, puisqu'on leur a déjà interdit l'accès à l'université et qu'elles arrivent quand même à faire des choses, que l'imprimerie, on n'a pas de moyen de contrôler ce qui se passe, on va juste changer le langage. Et donc, c'est eux qui vont dire, à partir de maintenant, on va dire auteur, peintre, philosophe, poète, médecin. Leur idée derrière, c'était bien de se dire, on va ridiculiser les femmes qui le font. Elles vont se sentir bêtes qu'on leur donne un nom au masculin. Et de deux, après, en entendant ça, les personnes vont se dire, c'est pas ma place, c'est des métiers réservés aux hommes. Parce que bien évidemment, il y a plein de métiers qu'on a complètement laissés au féminin. Tous les métiers qui n'étaient pas aussi prestigieux, en fait. On n'a jamais touché aux métiers pas prestigieux.
Ouais, les métiers du Caire, notamment.
Je ne pense pas qu'on disait ça à l'époque.
Oui, mais les métiers plus domestiques, dans des sphères plus fermées, de la maison, des enfants.
Et c'est très spécifique, les métiers qu'on a masculinisés. Et puis, fort de leur grande réussite, ils ont aussi créé de nouvelles règles, dont la plus connue et la plus déterminante, en fait, dans notre façon de parler en France à l'heure actuelle. C'est la fameuse règle que s'il y a plusieurs mots dont les genres sont différents, il faut que le plus noble l'emporte, le plus noble étant le masculin. Et ça, c'est quelque chose dont on a énormément de preuves, en fait. C'est vraiment, ce sont les termes qui étaient utilisés à l'époque, et ce sont pendant pas mal de temps, en fait, on a eu des personnes qui se sont exprimées dessus en expliquant réellement l'intérêt de cette pratique, en disant « mais Le masculin est noble, il faut l'utiliser, c'est plus important. » Le fait qu'on ait autant de justifications, ça prouve quelque chose, ça prouve qu'il y avait des personnes à l'époque qui disaient « mais c'est n'importe quoi », et que les hommes au pouvoir ont dit « non, non, c'est pas n'importe quoi, c'est très pertinent, nous sommes supérieurs aux femmes. » Il y a dans d'autres pays, à cette époque, il y a plein d'autres universitaires qui ont essayé de faire la même chose, et ça n'a pas pris partout de la même façon. Par exemple, en Angleterre, ça a très peu pris. Il y a un moment dans le temps, on a essayé de faire disparaître le pronom neutre they, et puis finalement, il est revenu assez rapidement. On l'entend aux États-Unis, notamment. C'est un terme qui est utilisé de façon... Alors, c'est politique, il y a des milieux sociaux dans lesquels on ne l'utilise pas, mais quand on écoute un peu la façon dont parlent les gens maintenant, c'est très fréquent d'utiliser, bien au-delà des milieux féministes et queer, c'est très fréquent que les gens utilisent le they pour décrire quelqu'un... dont ils ne connaissent pas le genre, en fait. Voilà. Mais en France, ça a super bien fonctionné, notamment parce qu'il y a eu la création de l'Académie française. Et ça, c'est une création qui est un peu lunaire, parce qu'il n'y avait personne, en fait, il n'y avait pas de linguiste dans l'Académie française. Ça n'a jamais été... C'est l'Académie qui est censée rigidifier et codifier la langue française, mais il n'y a pas de linguiste dedans. Et donc cette académie qui avait des moyens royaux, littéralement, puisque c'était l'argent qui venait du roi, elle a vraiment du coup pu imposer tous ces termes. Et donc il y avait des choses qu'ils ont interdites, qu'ils ont codifiées en disant ça c'est les nouvelles règles de grammaire, voilà. Et puis il y a aussi des choses, comme c'était pas possible de l'interdire, ces hommes ont plutôt essayé de mettre une mauvaise image. Par exemple le fameux « ça », ce pronom neutre, ces hommes ont dit « ça fait vraiment mal parler ». Et donc de mettre un regard un peu classiste dessus en disant les personnes lettrées, les personnes de bon goût, en fait, n'utilisent pas ça. Donc tout d'un coup, il y a un terme toujours à l'heure actuelle, si on dit ça pleut, on se voit tout de suite à la campagne avec les bottes pleines de boue, etc. Et des gens qui n'ont pas de dents en face de nous. Enfin, c'est vraiment tout l'imaginaire qui vient quand on entend des gens utiliser des formulations neutres. C'est vraiment juste une façon de manipuler la langue en disant il y a un bon français et ce français est masculin, ce français est sexiste.
C'est vraiment intéressant cette construction et cette évolution de la langue et comment la langue est devenue, la langue française en tout cas, est devenue presque androcentrée, misogyne et classiste. Voilà, avec vraiment une question de classe sociale ou en tout cas cette dimension sociale dans la manière dont la langue est utilisée.
Tout à fait. Et je pense que c'est très lié aussi à l'Académie française, ce côté de correction. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à corriger les autres pour montrer sa supériorité. Et l'obsession qu'il y a à l'heure actuelle sur les jeunes Français et Françaises qui écriraient moins bien, ça, c'est quelque chose qui est fascinant. C'est une ritournelle constante. Donc, on coupe les moyens de l'éducation nationale et notamment de l'apprentissage du français. Mais aussi, on va humilier plus encore les personnes qui parlent moins bien français. Ces personnes parlent très bien français, elles arrivent à se faire comprendre de leurs proches. Donc le langage est un outil, donc l'outil fonctionne pour ces personnes, mais pas comme le voudrait l'élite. Mais en fait, l'élite, est-ce qu'elle cherche réellement à faire que tout le monde parle mieux français? Non, elle cherche juste à montrer qu'il y a deux types de personnes dans la société. Et c'est d'autant plus intéressant aussi qu'au-delà du côté classiste, il y a aussi un côté, on pourrait dire, un petit peu handiphobe. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes d'apprentissage de la langue, qui sont par exemple dyslexiques, qui ont des problèmes d'attention. Il y a 36 000 raisons qui ont des parents étrangers, par exemple, qui vont avoir plus de difficultés à parler le français validé par l'élite bourgeoise. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'intéresser au langage, parce que c'est bien plus que les questions de genre. Ça reflète vraiment de la société qu'on veut avoir. Et donc, si on avait un langage qui était beaucoup plus fluide, bah, ça permettrait en fait à d'autres personnes de se sentir fortes, de se sentir capables de parler. On l'a vu pendant la crise des Gilets jaunes, la façon dont les personnes qui avaient pris la parole, les personnes qui, du coup, avaient des métiers difficiles, éloignées des grandes villes, qui représentaient finalement voilà, la classe ouvrière, la classe populaire, et ces personnes qui avaient osé prendre la parole dans l'espace public ont été humiliées. On s'est moqué de la façon dont elles parlaient. Et c'est aussi une façon de taire certaines personnes. Donc, travailler sur le langage, moi, j'essaie de travailler effectivement sur le côté genré, mais plus que ça, il faut aussi réfléchir... C'est bien aussi de se demander comment est-ce que je fais pour que mon langage soit plus inclusif. Et l'inclusivité, c'est pas que le genre. Ça peut aussi être le sexisme, l'homophobie. Par exemple, dire des choses comme « c'est du travail d'arabe »,« c'est un truc de pédé ». Tout ça, alors on les voit progressivement qui disparaissent, et c'est une bonne chose. Tout ça, ce sont les expressions aussi sont genrées. On n'est pas que sur des points de grammaire. Notre langage est genré parce qu'on utilise des expressions qui sont genrées. Pour en revenir à l'anglais, on peut se dire, ah ben c'est bon, l'anglais, du coup, n'est pas un langage genré, donc il n'y a pas de sexisme. Évidemment, il y a du sexisme en Angleterre, mais aussi parce que leur langage n'est pas si neutre que ça. Les adjectifs, on va utiliser en anglais... Pretty pour une fille et beautiful pour un garçon. Et donc, on voit qu'on recrée du genre, même quand il n'y a pas grammaticalement de genre. Alors, toutes les langues n'en sont pas au même niveau du tout. Voilà, c'est intéressant d'avoir une vision globale sur le genre, en fait, je pense.
À partir de quel moment, Aline, on a commencé à démasculiniser, dégenrer le langage? Là, on a évoqué dans le précédent épisode l'apparition de l'écriture inclusive, le pronom neutre « yel ». Voilà, à partir de quel moment ça s'est apparu?
Mais en fait, ça a paru depuis aussi longtemps qu'on a essayé de masculiniser la langue française. Lors de la Révolution française, on avait des personnalités qui disaient « nous devons créer des droits humains » ou des droits de l'homme et de la femme. Le fait qu'on ait choisi les droits de l'homme, ça en dit beaucoup. Et d'ailleurs, dans pratiquement tous les autres pays, on utilise maintenant le terme « droits humains ». Par exemple, « human rights », on parle de ça. La France résiste. C'est important qu'on continue à dire « le droit de l'homme ». Et ce qui est intéressant, c'est que plus, en fait, on commence à dégenrer son langage, plus le masculin générique est difficile à comprendre. Moi, il y a plusieurs fois où, en entendant des expressions typiquement « droit de l'homme », où je me suis dit « ah, ça parle d'homme ». Et en fait, mon cerveau s'est tellement habitué maintenant à ce que le masculin veuille dire le masculin que le masculin générique lui semble complètement farfelu, quoi. Donc, déjà à cette époque, en 1789, il y avait déjà des personnes qui disaient, des femmes essentiellement, mais pas que, qui attiraient l'attention sur la nécessité d'inclure le féminin.
Alors, du coup, Aline, concrètement, comment on peut changer ses habitudes? Parce que la semaine dernière, Carole nous a bien témoigné que c'est compliqué, qu'on peut se reprendre. En tout cas, que ça demande toute une gymnastique cognitive pour changer des habitudes qui sont très ancrées.
La première chose, déjà, c'est de comprendre effectivement ce qui crée en fait dans le langage ce qui va nous influencer. Donc on l'a dit, ça crée l'attention vers le masculin plutôt que vers le féminin. Ou alors ça attire l'attention sur le fait que les deux groupes sont séparés. Donc à partir de là, on a un petit peu deux options selon ce qui nous intéresse. C'est soit se dire « je vais rajouter du féminin partout parce que je veux que le féminin, que les femmes soient visibles partout ». Donc, on va dire...
Le conducteur et la conductrice, comme nous disait Carole.
Ou alors, on peut se dire, non, en fait, moi, mon intérêt, c'est que mon enfant ne porte pas attention au genre. Et donc, tout à l'heure, j'expliquais, on allait un petit peu vite sur l'importance, en fait, pourquoi est-ce que les enfants, en fait, sont influencés par le fait qu'on genre toute la société. Une chercheuse américaine qui s'appelle Chrystia Spears Brown, avec chercheuse non-binaire qui s'appelle Rebecca Bigler. Dans les années 80, Rebecca Bigler a réuni des profs de primaire à qui Yale a donné des différentes consignes. À la moitié, Yale a demandé d'organiser la classe en différenciant filles et garçons. Par exemple, en utilisant du rose pour les filles, du bleu pour les garçons, sur les petits signes, différents petits signes que les enfants utilisent, ou en disant « bonjour les filles, bonjour les garçons ». Dans l'autre moitié des classes, Yale a demandé aux profs de jamais mentionner le genre, de dire « bonjour les enfants », d'utiliser des couleurs neutres, etc. Ce qu'elle a vu, c'est qu'après 6 semaines de cours, les enfants du premier groupe avaient développé de forts stéréotypes de genre et disaient des choses comme « il n'y a que les garçons qui peuvent être présidents ou les filles sont très faibles ». Et donc, au début des années 2000, Chrystia Spears Brown, qui est du coup, entre-temps devenue l'élève de Rebecca Bigler, ensemble, elles ont refait en fait une étude. Et là, elles ont séparé les enfants à travers les couleurs des t-shirts. Donc, plutôt dire filles et garçons. Il y avait la moitié des profs qui disaient « les rouges, vous faites ça, les bleus, vous faites ça, bonjour les rouges, bonjour les bleus ». Et du coup, il y avait des couleurs, bien sûr, qui étaient assignées à chacun des enfants, les enfants qui portaient des t-shirts de couleur. Et l'autre moitié qui ne faisait pas attention au fait que les enfants avaient des t-shirts de couleurs différentes. Et de nouveau, on avait, 6 semaines plus tard, les enfants qui développaient de forts stéréotypes et d'autres enfants qui ne développaient pas de stéréotypes.
Oui, les rouges sont comme ci, les bleus sont
exactement.
Comme ça.
Exactement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a un peu un truc d'essentialisation. Les enfants se disent, le genre est hyper important. Il est présent dans tous les moments de la vie. Donc, il doit être important en tout point. Donc, sur chaque chose, il est important. Et donc, on va se retrouver avec des enfants qui vont dire, les filles n'aiment pas les pattes. Typiquement, qu'est-ce qui s'est passé ? Je veux dire, on a tous des exemples d'enfants qui nous sortent des généralités sur les filles et les garçons qui nous semblent aussi, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau ? Ce qui s'est passé dans son cerveau à ce moment-là, c'est que cet enfant s'est dit, je suis un garçon, j'aime les pattes. Donc, tous les garçons aiment les pattes, puisque tous les garçons sont les mêmes. Il y a ce phénomène. En plus, les enfants passent par différentes phases, en fait, dans leur apprentissage du genre. Et il y a des moments où ils ont vraiment besoin, en fait, très fortement de s'associer. Ils se disent, il y a des règles qui sont très strictes, il ne faut pas qu'on me vire du groupe. C'est très important que je reste dans le groupe, donc il faut que je fasse tout comme le groupe et que le groupe, on soit soudé, qu'on fasse tout pareil. Et donc là, à certains âges, ils vont se dire, tous les garçons sont pareils. Donc, si j'aime les pattes, tous les garçons aiment les pattes. Mais si les garçons aiment les pattes, les filles n'aiment pas les pattes. Et donc voilà,
est-ce
on
que les filles sont différentes des garçons
en tout point, exactement. Donc voilà, on a rebouclé un petit peu sur l'impact d'utiliser le genre. Donc même si on dit constamment les filles et les garçons, qu'on inclut constamment le féminin, on va quand même créer du genre, des projections genrées dans le cerveau de nos enfants. Donc
d'où l'importance là d'utiliser des choses plus neutres, des mots épicènes.
Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ?
Donc, il ne s'agit pas tellement de dégenrer le langage, mais plus, j'allais dire, le neutraliser, de le rendre plus neutre.
Tout à fait. Tout à fait. Je crois que le terme que Julie Abou utilise, c'est neutriser. Ce qu'on peut faire dans ce cas-là, c'est faire des phrases qui sont plus longues. C'est-à-dire vraiment décrire la situation. Dire, cette personne qui est architecte est belle. Bon, je ne sais pas dans quelles circonstances on dirait ça. C'est un exemple qui n'est pas super pertinent. Mais en tout cas, il y a cette idée de faire des phrases plus longues et d'utiliser des termes qu'on a, qui pour le coup sont en fait genrés de façon neutre. Par exemple, une personne. On fait toute la phrase au masculin. On peut faire un individu. On peut faire les gens. Et en fait, en jouant un petit peu avec ça, on va se rendre compte que si on écrit un texte, finalement, on aura autant de masculin et de féminin selon qu'on utilise les gens ou la personne ou un individu. Et là, on revient un peu à la version classique parce que vous allez me répondre, mais les gens, c'est moche. C'est moche pourquoi ? C'est moche parce qu'on nous a appris que c'était pas du langage soutenu. Mais si nous, on décide que le plus important pour nous, c'est qu'on ait de la liberté dans la langue et qu'on réinvente la langue pour la rendre plus neutre, et on se dit, bah, j'en ai rien à faire en fait que les gens me trouvent que je parle de façon étrange. Et c'est vrai que du coup, après cette conversation avec Eliane Viéno, je me suis dit, ok, maintenant je vais faire disparaître le « il y a », je vais faire disparaître le « il fait beau ». Et donc c'était très intéressant aussi, moi personnellement, après ça m'amuse beaucoup, moi je vois ça comme un jeu, de me dire, bon alors maintenant, essaye de dire « ouh, ça pleut en ce moment ». Donc je m'amuse avec mon enfant à sortir des phrases qui sont effectivement vues comme du parler très populaire, et à essayer un petit peu de les remettre sur le devant, ou d'essayer de trouver d'autres tournures aussi. Hein, on peut faire des tournures, on peut dire, plutôt qu'il y a du soleil, dire « ah, aujourd'hui, c'est ensoleillé », ou « aujourd'hui, le soleil est là ». Il y a plein de façons, en fait, dont on peut un petit peu jouer avec la langue. Et puis après, on a tout ce qu'on est en train de créer à l'heure actuelle, tous les néologismes, le yel, le point médian. On peut aussi réinventer des mots. Tout à l'heure, je parlais de auditorice. Donc, auditeur, auditrice, auditorice. On peut dire heureux, heureux, heureuse. Heureux, ça c'est quelque chose qui prend pas mal dans les milieux queer. Il y a plein de petits termes comme ça, à dire tous plutôt que tous et toutes. Donc il y a des petits termes comme ça qui commencent progressivement, qui sont assez faciles à manier, qui commencent à trouver leur place. Eliane Viéno, dans le podcast, elle parlait, mais ça règle pas encore tous les problèmes. Et Eliane Viéno, elle proposait par exemple une solution, parce que c'est ça en fait, on revient à cette utilité. D'échanger entre personnes qui ont, on a des objectifs similaires, donc entre féministes, on peut échanger. Et elle disait, moi j'avais un problème avec les termes comme chercheuse. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'utilise, comment j'accorde après? Donc chercheur, chercheuse, chercheuse, en plus on entend heureuse dedans, c'est super sympa. Chômeureuse, voilà, tout de suite on est plus contente d'être au chômage. Et elle disait, ben, en fait moi j'ai décidé de me dire, ce sont des personnes, donc j'utilise toutes les formulations comme ça où on va réunir deux mots en un, tous les mots,
féminin.
On les met au féminin. Donc, les chercheuses sont... J'ai envie que tout le monde soit sympathique aujourd'hui.
Sont belles.
C'est cool. Mais voilà, je me suis dit, on va quand même pas revenir sur ça. D'habitude, je suis toujours en train de chercher des termes épicènes. Et là, je n'ai que des termes épicènes. J'étais en train de dire égoïste. Ah non, c'est épicène aussi. Sont coupables. Je ne sais pas ce qui me vient, mais voilà. C'est encore épicène. Bon.
Sont gentilles.
Voilà, sont gentilles. Tout ça, voilà, c'est des pratiques, en fait, qu'on est en train de codifier un petit peu de nouvelles façons de parler, peut-être de les rendre acceptables. Bon, Julie Abou dirait qu'il ne faut jamais codifier la langue et que c'est bien de la laisser vivre et de se laisser surprendre constamment par les évolutions. Mais c'est aussi, c'est quand même intéressant, je pense, de codifier un petit peu, de trouver des solutions pour mieux parler. Après, on peut aussi se dire...
Oui, après, dans ce que tu disais quand même, Aline, dans des formulations qui, du coup, vont être plus longues, on peut se dire que ça complexifie les choses, ça alourdit ou ça amène des formulations qui peuvent paraître bizarres. Alors, qui peut-être nous paraître bizarres aujourd'hui et puis dans quelques années, plus du tout. Mais...
C'est ça, c'est le terme autrice. Quand on a commencé à le réutiliser, puisqu'encore une fois, c'est un mot qui existe depuis fort longtemps, il y a eu des levées de boucliers, c'est moche, enfin, c'est l'argument principal. Donc, pourquoi est-ce que ça serait moche et d'autres mots qui finissent en « is » ne seraient pas moches? Ça n'a aucun sens. Et en fait, maintenant, il n'y a plus de problème. Enfin, je veux dire, je me rappelle qu'au début, il y a quelques années encore, quand on disait à sa maison d'édition qu'on voulait que sur la quatrième de couverture, il y ait marqué l'autrice 2, on disait « ah mais non, c'est pas possible », alors que l'ouvrage parlait de féminisme, et on se retrouvait quand même avec des maisons d'édition qui refusaient. Maintenant, si on dit qu'on est autrice, on est autrice, et puis point barre. Il y a de plus en plus de personnes qui disent « chercheuse ». Ça fait toujours un petit peu bizarre, et bientôt, ça nous semblera normal, effectivement. C'est le masculin de chercheur, il n'y a pas de question dessus, en fait.
Donc l'évolution de la langue, elle nous bouleverse, elle choque nos oreilles ou elle titille nos oreilles.
Mais c'est ça qu'on
mais
veut,
c'est des
justement.
Questions d'habitude.
Parce qu'en titillant, ça attire notre attention. Encore une fois, les mots attirent l'attention. Donc, en féminisant des mots, on attire l'attention sur le féminin. Ou en neutrisant les mots, on attire l'attention sur le neutre. Et ça nous questionne, du coup, sur la façon dont on parle. Après... Donc oui, ça fait bizarre. Je me questionne, même quand je refusais de dire le bonhomme est vert à mon enfant et que j'étais là en train de faire des tournures. En plus, je me reprenais parce que j'étais éternellement surprise de ne pas trouver le bon mot. Et j'étais là, genre, le personnage... Le
feu est vert.
Voilà. Et je me disais, les gens dans la rue vont m'entendre. Là, je parlais d'inconnus. Et même ça, je me suis dit, oh, le regard qui va être porté sur moi, d'autant plus quand on parle à des enfants, parce qu'il y a quand même toujours cette peur d'être vu comme étant un mauvais parent. En tant que personne qui parle de genre et des enfants, j'ai quand même, et de mon genre en tant que parent, constamment des personnes sur Internet qui viennent me dire qu'on va appeler la DAS. Donc, c'est quand même quelque chose, effectivement, qui est compréhensible, qu'on ait peur d'être vu comme étant un mauvais parent. Et donc, c'est vrai que ça peut faire bizarre. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi ? Que les gens du parc se disent « cette personne parle bizarrement parce que j'ai dit « oh regarde, il y a un enfant qui a pris son vélo » ou « il y a un... » Ça, c'est un vélo de grand enfant. C'est, d'ailleurs, il y a plein de phrases, en fait, en essayant de les mettre au neutre. Je me suis dit, mais oh, le genre est tellement plus présent que je pensais. Par exemple, on ne dit jamais un vélo de grand enfant. On dit de grande fille ou de grand garçon. Alors que ce sont les mêmes vélos. Et donc, il y a plein de... Voilà, j'avais un petit peu peur de ça. Et puis, progressivement, je me suis dit, mais en fait, pour moi, qu'est-ce qui est le plus important, le regard des autres ou le fait que mon enfant ait, dans certaines circonstances, qu'une partie de son temps, mon enfant ne sente pas la pression du genre. Que mon enfant sache qu'il y a des alternatives à la façon dont on parle à la crèche. Parce qu'évidemment, il y a un peu cette peur que je me disais un petit peu, pas trop, mais un petit peu, mon enfant ne va pas savoir parler français. Le français correct. Et donc, ça va l'exclure. Ses camarades de classe, de maternelle vont se moquer. Les profs vont lui mettre de mauvaises notes. Mais en réalité, mon enfant apprend la langue auprès de plein de personnes différentes. Et tous nos enfants sont au minimum bilingues. C'est-à-dire que, bon, déjà, si leurs parents parlent plusieurs langues, les enfants apprennent très bien, voient très bien la différence entre les deux langues qu'ils apprennent. Et donc, ils vont utiliser le français à l'école et, je ne sais pas, l'arabe à la maison, par exemple. Mais on peut aussi dire qu'il y a un sort de bilinguisme, par exemple, sur les insultes. C'est-à-dire que les enfants vont utiliser des insultes dans la cour de récréation qu'ils n'utiliseront pas auprès de leurs parents parce qu'ils savent que ce n'est pas le bon moment de les utiliser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé très soulageant, en fait, de se dire, les enfants intègre très vite qu'il y a plein de façons différentes de parler. De même qu'on n'écrit pas pareil sur sa copie, que l'on parle dans la cour de récréation. Et donc tout ça, ça veut dire que en proposant un langage qui va être plus neutre, qui va peut-être sonner bizarre pour d'autres personnes, qui n'est pas encore codifié nécessairement, et ben notre enfant juste apprend. C'est un modèle de français parmi tant d'autres. Et notre enfant va piocher ce dont il a besoin dans ce langage. Mais au moins, l'enfant saura que le masculin l'emporte sur le féminin, n'est pas la seule façon de voir le monde, que d'autres personnes voient le monde autrement.
Comme tu nous l'as bien dit, Aline, et comme nous en a témoigné Carole dans le premier épisode, notre manière de parler influence la façon dont on perçoit la réalité, le monde qui nous entoure. Et donc, modifier, dégenrer, neutriser son langage permet d'ouvrir, de moduler, de construire d'autres représentations du monde qu'on propose aux enfants. Je recommande souvent des lectures à mes patients, alors lectures, vidéos, autres podcasts. Donc évidemment, on va recommander, Aline, ton podcast et plus particulièrement l'épisode 5 de Bienvenue bébé sur la question du langage. Mais est-ce que tu aurais autre chose à nous recommander ?
Alors je vais faire déjà comme la semaine dernière, je vais recommander le livre « Éduquer sans préjugés ».
D'Amandine Ancevitch et Manuela Spinelli.
Tout à fait, Manuela Spinelli, qu'on entend dans Bienvenue bébé. Que serait un podcast féministe sur les enfants sans une des personnes de l'association Parents et Féministes? Mais je recommanderais aussi donc, tous les livres d'Eliane Viennot qui permettent vraiment de creuser, en fait, déjà c'est historiquement hyper intéressant. Ça donne plein d'outils aussi pour repenser, pour réfléchir au langage. Et le livre de Julie Abou dont j'ai parlé, Tenir sa langue, qui est beaucoup plus anti-système. Et qui apporte aussi une réflexion qui m'a un peu, moi, bouleversée sur « faut pas codifier ». Et donc, c'est très intéressant, alors que Eliane Viennot est plutôt dans une recherche de recodification, de changer les règles, ou plutôt que changer les règles, revenir à des règles précédentes. Là, on n'a pas parlé, mais par exemple, sur les accords, on a l'accord de proximité, l'accord par le nombre, etc., tout ça. Et donc, on voit qu'il y a plein d'approches. Je trouvais ça intéressant de proposer ces deux ouvrages dont j'ai déjà parlé dans l'épisode, parce que ce sont des approches qui sont différentes. Et on a pas en fait à avoir une seule et même approche du langage. C'est justement quelque chose qui est vivant et qui est fascinant. Et donc, on peut très bien avoir plein d'approches différentes en fait du langage. Et c'est ça qui va permettre de créer des choses fructueuses. En fait, c'est juste de se dire tous ces regards différents, toutes ces façons de faire différentes, toutes ces approches. Hein. Alors, je disais l'attention, quand est-ce qu'on choisit, si on va féminiser, si on va faire du mettre du féminin et du masculin à égalité, si on va plutôt mettre du neutre. Tout ça, c'est des visions en fait, de la société, de voir tout ce que les gens créent avec le langage.
Merci beaucoup Aline. Je rappelle que tu es journaliste, autrice du podcast Bienvenue Bébé, produit par Paradiso Media, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir invitée.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.